L'enfant peut émettre beaucoup d'urine, donc une polyurie. La femme peut avoir envie de beaucoup manger, ce qu'on appelle une polyphagie. Elle est fatiguée à tout moment. La femme peut aussi se plaindre seulement de pleurites vaginaux.
Quand une femme enceinte remarque tous les signes que vous venez de développer, qu'est-ce qu'elle devait faire?
Bon, naturellement, elle devait aller se faire consulter. Et lors de la consultation, on va lui faire une prise de sang, on va l'évaluer et finalement, après un bilan, on va faire la glycémie. Après ça, le médecin ou le clinicien va analyser par rapport aux valeurs et va conclure à un diabète gestationnel. Parfois aussi, c'est à l'occasion de rien, elle vient pour une consultation prénatale et finalement, on fait l'examen, une prise de sang, on découvre qu'elle fait le diabète gestationnel.
Quand la femme est enceinte et qu'elle développe un diabète, quels sont les risques pour le bébé à naître ou pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Le diabète est une maladie grave, mais pas aussi grave comme on le croit si on la suit ou bien si on est suivi. Pour les fœtus, vous savez, c'est l'effet de sucre qui peut amener à des anomalies chromosomiques, surtout si c'est au premier trimestre de la grossesse, quand l'enfant se forme.
Quelles peuvent être les conséquences?
Ça peut vous amener à des avortements ou carrément à des malformations congénitales liées à l'hyperglycémie, à l'excès de sucre qui est en train de passer dans la circulation.
L'enfant à naître peut-il hériter de cette hyperglycémie?
Cette hyperglycémie peut aussi se transmettre à l'enfant, ce qu'on appelle l'hyperglycémie fœtale, fœto-maternelle ou materno-fœtale, qui va transiter vers l'enfant et cela pourra induire à la longue une souffrance fœtale. Cette fois-là, c'est une souffrance fœtale chronique par intoxication due au glucose.
Les complications liées au diabète gestationnel peuvent-elles conduire à la mort?
Ça peut aussi créer une mort fœtale in utero, ce qu'on appelle mort subite. Surtout quand on arrive autour de la 36e semaine. L'enfant aussi peut développer une détresse respiratoire à la naissance, même pendant la grossesse, à cause d'une glycogénie ou une polyurie fœtale qui va être responsable d'excès d'eau ou d'une polyhydramnios. C'est un peu ça, des complications qui peuvent survenir pendant la grossesse.
Quelles sont les complications qui pourraient survenir pendant l'accouchement?
Lors de l'accouchement, par exemple, l'enfant qui va naître très gros, ce qu'on appelle un macrosome fœtal, ça peut avoir des répercussions et lors de la naissance. Si l'enfant est trop gros, il peut avoir lors de son passage dans les voies génitales, là, l'enfant peut connaître une fracture des épaules lors de sa sortie ou une paralysie carrément des membres supérieurs ou une élongation du plexus brachial. Il faut aussi noter que cet enfant qui naît avec hyperglycémie, c'est un enfant fragile qui peut faire des hypoglycémies lors de la naissance ou après la naissance. Il peut faire des hypocalcémies qui vont amener l'enfant à être très fragile à la naissance.
Nous avons vu que le diabète peut entraîner beaucoup de complications à l'enfant qui est encore dans le ventre ou pendant la naissance. Mais est-ce qu'il y a un risque que lorsque l'enfant naît, qu'il développe plus tard un diabète?
C'est justement ça, parce que un enfant qui naît d'une mère diabétique peut faire ce qu'on appelle un hyperinsulinisme résiduel. Cela pourrait avoir des conséquences plus tard dans sa vie s'il n'est pas soigné correctement. C'est un enfant qui est prédisposé déjà à être obèse dans l'avenir. Vous savez que l'obésité appelle le diabète et vice-versa.
Docteur, nous avons vu qu'il y a beaucoup de complications pour le bébé. On veut savoir si une femme qui développe un diabète pendant la grossesse peut aussi connaître des complications pendant l'accouchement, pendant la grossesse ou après l'accouchement. Quelles peuvent être ces complications?
La mère qui fait le diabète peut avoir deux groupes de complications. Le premier groupe de complications, ce sont des complications liées d'abord au diabète, qu'il soit chez la femme enceinte ou chez la personne normale. Là, il y a des complications, ce que nous appelons des complications aiguës, c'est par exemple les comas, quand on est entré en coma. Il y a aussi des complications chroniques, c'est déjà des pieds diabétiques ou bien des AVC. Ça, c'est lié au diabète purement.
Et quels sont les risques d'un diabète gestationnel pour la femme?
Comme je l'ai dit tantôt, lié à la femme qui porte une grossesse, la femme peut développer des complications liées à l'accouchement. Un bébé qui est trop grand va faire que la femme ne saura pas la mettre au monde par les voies naturelles. Ça va amener à faire des césariennes. Parfois, quand on ne fait pas les césariennes, l'enfant peut naître par des voies basses, mais la mère va faire des déchirures et des parties molles. Et même l'utérus là, qui est trop gros, va amener à des atonies utérines et parfois aussi à des hémorragies de postpartum.
Le diabète présente beaucoup de risques aussi bien pour la mère que pour l'enfant à naître. Alphonse Boiti de la RDC veut savoir si le diabète gestationnel est passager et disparaît après l'accouchement.
Naturellement, le diabète gestationnel, quand c'est bien pris en charge, a tendance à disparaître après l'accouchement. Mais si on ne fait pas attention, quand vous avez fait déjà un diabète gestationnel, vous entrez dans la ligne de ceux qui ont des antécédents eux-mêmes. Donc, il faut un suivi après l'accouchement, parce que vous courez le risque de développer un diabète, cette fois-là, un diabète sucré carrément de type 2.
Grady Bieka Mutombo se demande s'il y a un traitement efficace contre le diabète que la femme développe en cours de grossesse ou le diabète gestationnel. Comment se passe la prise en charge du diabète gestationnel?
Oui, la prise en charge du diabète gestationnel, c'est comme la prise en charge de tous les diabètes. Principalement, deux volets de prise en charge. Le premier volet, c'est le volet que nous appelons non médicamenteux, basé principalement sur des conseils alimentaires.
Quel genre de conseils?
Donc, c'est éviter de consommer les sucres simples et des graisses, encourager la consommation des sucres avec beaucoup de résidus, comme la banane plantain, les ignames, les maïs, les légumes, les fruits contenant peu de fructose ou beaucoup de fibres alimentaires, mais aussi c'est faire l'activité physique, faire une marche, faire plus des activités physiques qui sollicitent les membres supérieurs, par exemple régulièrement faire la lessive, faire la vaisselle, les repassages, ce sont des mesures hygiéno-diététiques en ce qui concerne l'alimentation et même l'environnement de la femme.
Docteur, quel est le deuxième volet?
Le deuxième volet, c'est le volet médicamenteux. Quand le taux de sucre est très élevé, on peut donner l'insuline. Et rarement, on donne ce que nous appelons des antidiabétiques oraux.
Ces antidiabétiques oraux ne présentent-ils pas de danger pour la future mère ou le bébé?
Ces groupes de médicaments, des antidiabétiques oraux, ont parfois des conséquences. Si c'est au premier trimestre de la grossesse, il faut les prendre avec pincette parce que ça peut créer des petites malformations au niveau du fœtus qui est en train de se former. Mais aussi, certains antidiabétiques oraux ont des implications à la naissance. Parce que vous savez, j'ai dit tantôt que cet enfant-là, c'est un enfant qui a une hyperglycémie, qui est un macrosome, qui est déjà fragile. Alors quand il naît, vous donnez encore les antidiabétiques oraux. Et chez l'enfant, ça risque de passer au niveau de lait maternel et créer des hypoglycémies parce que les antidiabétiques oraux, au fait, ce sont des médicaments qui servent et l'insuline à baisser les taux de sucre dans le corps de la mère. Et quand ça peut passer par le lait maternel, ça peut avoir, surtout en ce qui concerne les antidiabétiques oraux, de l'influence chez l'enfant. Donc ça peut créer des hypoglycémies chez l'enfant. Ce sont des traitements de complications, on les prend en charge médicalement.
C'est rassurant de savoir que le diabète gestationnel a un traitement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Alors docteur Kéba, comment est-ce que se fait la prévention du diabète gestationnel? Comment est-ce que la femme enceinte peut prévenir le diabète gestationnel?
Je vous ai dit tantôt que quand quelqu'un se connaît déjà, qui a des antécédents de diabète dans la famille et qu'il a un âge avancé et tout ça, il limite les apports de sucre qu'il consomme, et il fait souvent exercice physique, il ne mange pas avec les bites, il programme ses repas par jour, il consulte à temps quand la femme est enceinte. Ce sont des mesures-là qui vous épargnent de faire le diabète gestationnel.
Nous avons un auditeur, Eric Kamanda, qui depuis la RDC veut savoir si la consultation d'une femme diabétique enceinte se fera toujours de la même façon que toute femme enceinte normale qui ne présente pas de diabète.
Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est une consultation normale. Mais seulement, la femme doit dire déjà au préalable à son clinicien qu'elle est diabétique ou qu'elle a des problèmes ou elle a des antécédents de diabète. Et là, le clinicien prendra des mesures, des orientations qu'il va lui donner pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le même auditeur, Eric Kamanda, veut savoir s'il est bon pour qu'une femme diabétique donne régulièrement naissance. Je pense qu'il veut savoir s'il y a une limitation de naissance pour une femme qui développe souvent le diabète pendant la grossesse.
Les naissances ne sont pas limitées. Mais il faut savoir que plus vous donnez naissance, plus vous exposez. C'est comme ça qu'autour déjà de la cinquième parité, de la cinquième grossesse, on déconseille aux femmes.
Merci docteur Kéba. Pour finir notre interview, un conseil à toutes les femmes enceintes qui développent ou non un diabète gestationnel et qui sont en train de nous suivre en ce moment?
Le conseil à donner à toutes les femmes enceintes, C'est seulement, ça doit être dans la mentalité des femmes comme ça, que dès qu'elle constate qu'elle n'a plus de règles, elle doit se diriger vers un centre ou bien vers un hôpital pour commencer ses peines. Et lors de ses peines, on aura à mettre en évidence ce qui peut plus tard compliquer une grossesse.
Merci beaucoup, docteur Kiba, de nous avoir accordé cette interview.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, on parle aujourd'hui de l'endométriose, une maladie méconnue qui touche des millions de femmes dans le monde entier. Le docteur Augustine Kwabena Tewuya, gynécologue obstétricien au Ghana, partage plus d'informations sur la maladie et sur la prise en charge. Ensuite, les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'OMS. Nous aurons la réaction de l'agence sanitaire de l'ONU. Enfin, une lueur d'espoir pour les mères adolescentes et les bébés abandonnés au Malawi. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est un mal qui touche des millions de femmes dans le monde, mais reste souvent sous-diagnostiqué. L'endométriose est une maladie gynécologique causée par des cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Cela entraîne des inflammations et peut causer des douleurs intenses et même l'infertilité. L'endométriose touche 190 millions de femmes dans le monde en âge de procréer, selon l'OMS. La sensibilisation à l'endométriose reste faible en Afrique, laissant de nombreuses femmes et filles souffrir en silence. Une organisation à but non lucratif nigériane mène une campagne pour éduquer le public sur cette maladie douloureuse et aider les femmes à y faire face. Timothy Obiezu fait ce reportage depuis Abuja.
Il y a 20 ans, Sharon Nkechi Adu a connu son premier cycle menstruel à l'âge de 15 ans. Depuis, chaque mois, lorsque ses règles arrivent, la douleur est si forte qu'elle doit être hospitalisée.
Ma mère n'a pas pris la chose au sérieux, alors j'ai continué à la gérer jusqu'à l'université. Sur le plan émotionnel, c'est toujours autre chose parce que parfois, vous arrivez à un point où vous vous dites « Pourquoi moi ?»
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose touche 10% des femmes et des jeunes filles en âge de procréer dans le monde. Elle provoque de fortes douleurs dans l'abdomen et le bassin et peut augmenter les risques d'infertilité jusqu'à 50% chez les femmes. Malgré cette menace, le manque de données précises sur sa prévalence en Afrique subsaharienne a conduit à un sous-diagnostic et à un faible taux de dépistage par rapport à l'Europe et aux États-Unis.
We have about 30 to 40%.
Nous avons environ 30 à 40% de nos patientes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire des femmes en âge de procréer. On pense également que 11% de nos élèves ont une endométriose non diagnostiquée. La stigmatisation est due au fait que cette maladie est très peu connue, que le diagnostic par un spécialiste est rare et que la procédure de dépistage est coûteuse et difficilement accessible dans la plupart des régions du Nigeria.
De nombreuses personnes ne considère pas non plus l'endométriose comme un problème grave. C'est là qu'interviennent Olivia Nwankudu et son association à but non lucratif Endo Survivors International Foundation. Elle a lancé son association en 2017, des années après avoir découvert sa propre maladie, afin de sensibiliser le public et d'augmenter le nombre de diagnostics.
Lorsqu'une jeune fille entre dans le cabinet d'un médecin en souffrant de violentes crampes menstruelles, l'endométriose n'est généralement pas la première chose à laquelle il pense. Nous organisons également des formations pour les médecins de premier recours afin qu'ils puissent augmenter l'indice de suspicion de l'endométriose.
La Fondation a déjà aidé plus de 2000 patientes atteintes d'endométriose à accéder à des soins et à sensibiliser des milliers d'écolières. Elle organise également des rencontres de soutien périodiques pour aider les femmes qui souffrent émotionnellement.
Nous avons demandé aux téléspectateurs ce qu'ils savent de l'endométriose et ce qui pourrait être fait pour augmenter la sensibilisation ainsi qu'aider les patientes. Voici quelques réactions en provenance de Jos au Nigeria.
L'endométriose est comme la plupart des maladies de l'utérus. Elle se développe en dehors de l'utérus. Elle est principalement associée à la douleur dans la plupart des cas. L'un des symptômes que les femmes ressentent est la douleur. Il s'agit de douleurs intenses, une sorte de condition qui fait que si quelqu'un n'en est pas conscient, il sera occupé à autre chose sans savoir exactement quelle est la cause.
C'est une maladie qui affecte les femmes, qui touche l'utérus, surtout lorsqu'elles ont des rapports sexuels. Elles saignent. En y regardant de plus près, on a l'impression qu'il n'y a pas de mesures préventives. Il n'y a que des médicaments ou, la plupart du temps, une intervention chirurgicale. Lorsqu'une personne est atteinte d'une telle maladie, elle ne devrait pas simplement rester chez elle et commencer à utiliser des médicaments traditionnels. Elle doit se rendre à l'hôpital pour traiter le problème.
Les douleurs menstruelles que nous subissons sont tantôt normales, tantôt anormales. Si j'ai dit cela, c'est à cause des piqûres. Parfois, nous avons les jambes enflées, nous vomissons, nous n'avons pas d'appétit. Certaines personnes doivent être hospitalisées pour ces douleurs, appelées douleurs menstruelles, et j'ai l'impression que parfois, ce n'est pas normal.
L'endométriose est une pathologie réactive à l'intérieur de l'utérus. On parle également d'état inflammatoire lorsque la muqueuse utérine est hyperactive et peut se retrouver à l'extérieur de l'utérus. Cette muqueuse utérine inflammatoire, que nous appelons endomètre, peut même se trouver en dehors de l'utérus, dans la cavité péritonéale et ailleurs. Ainsi, ce tissu que nous appelons endomètre devient réactif, sensible et réagit aux changements hormonaux, ce qui signifie que le problème causé par l'endométriose peut être cyclique, c'est-à-dire qu'il évolue avec le cycle menstruel d'une femme. La sensibilisation est essentielle pour relever les défis en matière de santé.
Le docteur Augustine Kwabena-Tewuya est gynécologue obstétricien à Kumasi, au Ghana. Il partage plus d'informations sur l'endométriose.
L'endométriose est une affection qui signifie simplement la présence de tissu endométrial en dehors de la cavité utérine. Si l'on prend l'utérus d'une femme, il est composé de trois couches. Il y a la couche externe que l'on appelle les paramètres, il y a la couche intermédiaire que l'on appelle le myomètre et la couche interne que l'on appelle l'endomètre. L'endomètre est censé se trouver à l'intérieur de la couche interne de l'utérus. Ainsi, lorsque des tissus de l'endomètre se trouvent à l'extérieur de la cavité endométriale, il en résulte une endométriose. En termes simples, l'endométriose est donc la présence de tissus endométriaux en dehors de la cavité endométriale. L'endométriose est connue depuis des années. Cependant, il n'y a pas de cause unique à l'endométriose, mais certains facteurs ont été associés à l'endométriose et ont conduit au développement et à la progression de la maladie. Parmi ces facteurs, on trouve un facteur génétique qui est connu pour être présent dans les familles, les amis, les parents d'une même famille, une mère, une fille et une sœur. On sait qu'il est présent dans l'environnement. Les facteurs, il ne s'agit pas d'une pollution de l'air ni d'une pollution de l'eau, et elle peut également survenir à la suite d'une complication d'une intervention chirurgicale. L'endométriose se manifeste essentiellement par des menstruations abondantes, des règles abondantes et douloureuses. Elle peut également entraîner la stérilité. En ce qui concerne la santé génésique, le fardeau est énorme. Imaginez une femme qui vient vous voir tous les mois avec des règles abondantes qui la rendent parfois anémique et l'amène à être hospitalisée. Cette femme souffre de douleurs pelviennes chroniques. Elle souffre de douleurs abdominales basses dues à l'endométriose et, pendant des années, elle a essayé de concevoir un enfant, mais en vain. L'endométriose est donc un fardeau énorme pour la santé reproductive des femmes. Il existe des traitements, mais ils sont adaptés aux souhaits de la patiente. Le traitement peut être médical, chirurgical ou une combinaison des deux. Ainsi, par exemple, tout ce que nous faisons est d'arrêter la production d'oestrogène humain. Je conseille à toutes les patientes, à toutes les femmes, de se faire soigner, de ne pas attribuer les douleurs abdominales, les règles abondantes et l'incapacité à concevoir à d'autres conditions et de se présenter à l'hôpital le plus tôt possible. Nous prenons connaissance des antécédents de la patiente, nous procédons à un examen physique et à des investigations telles qu'une laparoscopie diagnostique. Nous arrivons au moins à poser un diagnostic d'endométriose. Une fois l'endométriose diagnostiquée, nous conseillons la patiente en collaboration avec elle sur les modalités de traitement appropriées.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé un décret exécutif pour retirer les États-Unis de l'OMS. Cette décision donne un préavis de 12 mois pour que les États-Unis quittent l'Agence sanitaire des Nations Unies et cessent toute contribution financière à l'OMS. Les États-Unis sont de loin le plus grand contributeur financier de l'organisation, avec environ 18% de son financement global. Le budget des deux dernières années de l'OMS pour 2024-2025 était de 6,8 milliards de dollars. Le départ des États-Unis risque de mettre en péril les programmes de l'OMS, selon les experts. L'agence sanitaire de l'ONU indique regretter cette décision de son principal pays donateur.
L'Organisation mondiale de la santé regrette l'annonce de l'intention des États-Unis d'Amérique de se retirer de l'organisation. L'OMS joue un rôle crucial dans la protection de la santé et de la sécurité des populations du monde entier, y compris des Américains, en s'attaquant aux causes profondes des maladies, en renforçant les systèmes de santé et en détectant, prévenant et répondant aux urgences sanitaires, y compris les flambées de maladies, et souvent dans des endroits dangereux où d'autres ne peuvent pas se rendre. Depuis plus de 7 décennies, l'OMS et les États-Unis d'Amérique ont sauvé d'innombrables vies et protégé les Américains et l'ensemble de la population contre les menaces sanitaires. Ensemble, nous avons mis fin à la variole et ensemble, nous avons amené la polio au bord de l'éradication. Les institutions américaines ont contribué à l'adhésion à l'OMS et en ont bénéficié. Nous espérons que les États-Unis reconsidéreront leur position et nous nous réjouissons d'entamer un dialogue constructif afin de maintenir le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et l'OMS au profit de la santé et du bien-être des millions de personnes dans le monde.
Tosayoué Mukondia sait ce que c'est que de sentir seul au monde. Abandonnée par sa mère à l'âge de 6 ans, elle a été élevée par sa grand-mère. Aujourd'hui, elle sauve des bébés abandonnés, des enfants vulnérables et des mères adolescentes au Malawi. Chimwemwe Padata nous en parle.
Tosayoué Mukondia a été abandonnée par sa mère à l'âge de 6 ans. Sa grand-mère l'a élevée, mais elle n'a jamais oublié ce que cela signifiait de vivre sans sa mère. Elle tente aujourd'hui d'aider d'autres personnes qui ont été abandonnées ou marginalisées.
Nous fournissons un abri, de la nourriture ainsi que tout type de soutien qu'une mère ou un père apporte à ses enfants. C'est ce que nous faisons.
Madame Mukundia a fondé le centre Yana, qui signifie « vous n'êtes pas seul », dans la banlieue de Mzuzu, la capitale de la région septentrionale du Malawi, où elle fournit des soins et un soutien à environ 200 enfants. Son organisation offre également un foyer aux enfants abandonnés ou orphelins, dont certains sont handicapés, et aux personnes âgées. Elle est également en train de construire un collège technique où les jeunes mères pourront poursuivre leurs études après avoir terminé l'école secondaire.
Nous voulons que nos enfants aillent à l'université. S'ils ont du mal à aller à l'université en raison d'un handicap ou d'une difficulté, nous construisons une école technique pour eux afin qu'ils puissent acquérir des compétences qui les aideront à devenir indépendants.
Deborah Magalassi, 16 ans, est une orpheline du district de Chow à environ 500 km. Elle a passé 6 mois au centre Yana.
J'ai rencontré certains problèmes lorsque j'étais dans mon village natal. Je n'avais pas de frais de scolarité. Mon père et ma mère sont décédés. La seule personne que j'ai dans ma vie, c'est ma grand-mère.
Certains membres de la communauté de Mzuzu affirment que l'initiative Yana a eu un impact positif.
Nous avons constaté que les choses s'améliorent parce que nous avons vu que les enfants apprennent. Ils ont une belle école, ce sont des choses dont nous bénéficions ici.
C'est la fin de cette édition hebdomadaire de Votre Santé, Votre Avenir. Nous avons discuté avec le docteur Timothée Djeba, qui est médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province de Bandundu en République démocratique du Congo. Nous avons discuté entre autres des causes du diabète gestationnel, des femmes enceintes à risque et des complications que ce type de diabète présente pour le bébé et pour la mère. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de Santé. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Chef Thierrot. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique.